Cube Radio. Il connaît tous les dessous de la politique.
Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale.
Antoine Robitaille.
Là-haut sur la colline.
Là-haut sur la colline. Cube Radio.
Bon mercredi à tous. Aujourd'hui à l'émission, on reçoit Pierre Nantel, candidat à l'investiture du Parti québécois dans Marie-Victorin. On questionne cet ancien collègue animateur sur son parcours politique plutôt sinueux, du NPD au Vert pour aboutir au Parti québécois. Qu'est-ce qui anime, qu'est-ce qui fait courir cet ancien commentateur politique recherché, notamment à la joute? Pourquoi ce retour en politique pour une formation qui, il faut bien l'avouer, en arrache? Mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne avec Rémi Nadeau.
Cube Radio. Les rencontres de l'heure.
Rémi Nadeau et Antoine Robitaille.
La rencontre Nadeau-Robitaille.
Mais bonjour Rémi Nadeau.
Salut Antoine.
Chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour Le Journal et Le Journal. Commençons tout de suite par une analyse sportive de la période de questions. Oh, il y a eu de la rudesse au Salon Bleu.
Oui, alors là, on sent vraiment que les partis d'opposition ont décidé d'y aller là, complètement, je dirais, en jeu ouvert, plus agressif, conscient qu'il ne reste que quelques journées de travaux parlementaires.
Ils mettent toute la gomme.
Voilà. Et tu sais que je trouve que généralement, d'habitude, c'est le vendredi de l'avant-dernière semaine d'habitude qui la pire session où là, ça crie, puis là, après ça, on se dit hey, « ça va être terrible la semaine prochaine », puis oups, ça rediminue. Mais là, dans le cas qui nous occupe, je trouve que cette session-ci, là, il y a vraiment un...
Il n'y a pas une année où il n'y a pas eu de vœux de Noël parce que tout le monde était fâché contre tout le monde. C'est dans les années Charest, il n'y avait carrément pas eu de vœux parce que la tradition veut qu'il y ait des vœux.
Donc, je me rappelle pas.
Vendredi, une année, il n'avait pas eu.
Ah ben ouais, pourtant.
C'était l'année des demandes répétées, des commissions d'enquête sur la construction, puis tout ça.
Alors là, on voit.
Je ferme la parenthèse.
Là, on voit une escalade, là.
Oui.
On voit vraiment dans les derniers jours ça a augmenté. Alors.
Ça n'a pas de maudit bon sens. On peut-tu écouter Dominique
Anglade? On va écouter tout de suite Dominique Anglade au Salon Bleu.
Mon Dieu.
Et c'était donc sa première question à François Legault ce matin.
L'INSPQ était au courant. Des courriels ont été envoyés pendant le mois de mars, mais encore une fois, le premier ministre nous dit que lui, dans son entourage, il n'entendait pas ces messages-là. Est-ce que le premier ministre, qui était le chef de la cellule de crise, était le seul à ne pas être au courant qu'on allait à l'abattoir dans nos CHSLD?
L'abattoir, Rémi. Pourquoi pas le camp de concentration?
Ouais.
Pourquoi pas la Shoah? Non, mais tu sais, à un moment donné...
Ben, c'est ça. Moi, j'en ai contre le fait que ça sous-entend qu'il y a une intention. Ça sous-entend que c'est sciemment qu'on envoie des gens volontairement pour qu'ils aillent mourir.
C'est du délai, je m'excuse, là. C'est du délai.
Je trouve aussi que c'est allé beaucoup trop loin. Et François Legault, pourtant, tu vois, a été plutôt calme, j'ai trouvé, dans sa réponse, là. Il est revenu, tu sais, sur sa défense, à l'effet que, bon, on a fait ce qu'on pouvait. Il y a des choses dont ils n'étaient pas complètement au courant. Lorsqu'on lui soulignait qu'il y avait des manques d'équipement dans certains endroits, il demandait qu'il y ait une intervention. Parfois, ça prenait un peu de temps. Bon.
C'est dommage qu'elle aille si loin, Dominique Anglade, parce qu'ils ont des maudites bonnes questions. C'est vrai qu'on se demande, avec tous les courriels qui sont sortis cette semaine, mais le gouvernement, comment ça qu'il n'y a pas eu ces signaux d'alerte-là?
Oui, exact. Et Paul Saint-Pierre Plamondon, lui, avant la période de questions, lui a été très fort aussi en réaction à l'annonce des parties, des fêtes là, à 20 personnes dans les rassemblements privés. Lui, il a dit carrément que c'était une commande politique du gouvernement à l'égard du directeur national de la santé publique, Dr. Arruda. Donc, vraiment, le gouvernement aurait imposé ses vues au patron de la santé publique, ce qui est très grave aussi comme accusation. Et Paul Saint-Pierre Plamondon a dit « Moi, je n'y crois pas là, que Dr. Arruda est arrivé à ce chiffre-là uniquement par son jugement, comme il l'a dit hier, ses observations sur l'épidémiologie, etc. » Alors, et Paul Saint-Pierre Plamondon, en passant, la semaine dernière et l'autre aussi, est allé très loin en parlant d'entrave.
Ah, ça, c'était le pire. Ah oui. Et entrave à la
fabrication
justice.
Fabrication de faux.
Ben oui, mon Dieu!
Alors, on était vraiment...
Non, mais ils savent plus quoi faire pour se faire remarquer. Vraiment,
ouais,
là...
Je pense que là, quand on est rendu dans les accusations de nature criminelle, moi aussi, je trouve que c'est très fort. Mais Alors voilà.
Puis je tiens à le dire, c'est pas parce que je défends béatement le gouvernement. Là. Le gouvernement, il a commis des erreurs dans cette première vague-là. C'est clair, là. Puis on le voit. Ce qui est beau avec les enquêtes actuelles, c'est qu'on en découvre là toutes sortes de pans. Puis il y a des correctifs qui vont être sans doute apportés pour les prochaines crises du même type.
Aussi, dans la catégorie « faut rendre à César », là, il faut pas oublier que à son arrivée, Christian Dubé a déjà apporté des correctifs, c'est-à-dire de faire en sorte qu'il y ait un patron par CHSLD, de faire en sorte que l'information, qu'il ait accès à toute l'information en temps réel pour prendre des décisions, ce qui n'était pas le cas là, sous Daniel Mécan. Bon, et on a vu que ça, c'est tout un changement.
Là, ah, tu me fais penser, le projet de loi qu'il a déposé, là, est-ce que ça lui aurait permis de prendre connaissance des courriels, d'appel à l'aide de la dame là, des CHSLD privés, là, Annick Lavoie?
Des courriels, ça, je ne sais pas, mais chose certaine, c'est qu'il aurait vu toutes les données en lien, par exemple, avec le nombre de patients présents, le nombre de cas plus détaillés par établissement CHSLD, etc.
On agit sur ce qu'on peut mesurer.
Ouais. Hein? Alors, c'est ça. Ouais. Le gouvernement continue de se défendre, mais ça a été, on a senti donc que ça a monté encore d'un cran. Moi, j'avais souligné, j'étais pas d'accord avec le fait que Dominique Anglade, la semaine dernière, impute une partie des responsabilités à Christian Dubé et François Legault au décès de M. Genet à Sainte-Terre. Bon, tu vois, visiblement...
Elle s'est ravisée le lendemain. Ben, ça, c'était le jeudi, le vendredi.
Oui, elle a comme corrigé un peu le vendredi, mais tu vois, ça ne l'empêche pas, encore une fois, d'aller trop loin, à notre avis, parce qu'on partage la même opinion là-dessus.
Oui, oh, c'est pas comme le troisième lien, là.
Non.
OK. La question sans réponse, Rémi.
Bien, justement, tu disais qu'il y avait des bonnes questions. Joël Arsenault, lui, a posé une question. Il n'y a pas eu de réponse. Et je trouve particulier la façon avec laquelle François Legault a navigué sur celle-là. C'est que Joël Arsenault dit, dans les courriels qui ont été envoyés, parce qu'on rappelle qu'il s'agit de courriels envoyés par la responsable des CHSLD privés au ministère des Aînés, là, de Marguerite Blais, au mois de mars. Et c'est des courriels qui ont été obtenus dans le cadre de l'enquête, la coroner Kamel. Et donc, Joël Arsenault dit, on voit dans les courriels qu'il y a eu des signaux d'alerte envoyés à la ministre responsable des aînés, Marguerite Blais. Et là, il dit, est-ce que donc la ministre responsable des aînés vous a avisé de ça à la cellule de crise, donc incluant M. Legault, la ministre de la Santé à l'époque, etc.
C'est la grande absence.
Et là, François Legault, dans sa réponse, il dit, la ministre responsable des aînés et sa sous-ministre, Nathalie Rosebush, faisait partie de la cellule de crise, parfois au téléphone, tu sais, participait aux réunions de la cellule de crise.
J'ai toujours pensé que Marguerite Blais n'en faisait pas partie.
Moi, on m'avait dit qu'elle était au téléphone souvent.
Mais dans une émission, je pense, émission Enquête, elle a dit à un moment donné qu'il réagissait souvent deux semaines plus tard après qu'elle a parlé.
Oui, exactement, c'est vrai, t'as raison. Elle est là, mais donc, il dit elles étaient présentes, les deux femmes, mais il dit pas textuellement. Elles nous ont avisé, bien sûr, des informations qu'elles avaient entre... Tu sais, il a juste dit elles étaient là, elles faisaient partie, autrement dit, de la cellule de crise par... soit au téléphone, etc. Mais il n'a pas répondu directement, donc je trouve ça comme curieux qu'elle laissait un peu flotter ça.
Mais il y a comme eu une réponse où il m'a semblé donner quelque chose. Il a parlé de balance des inconvénients. On peut l'écouter, si tu permets, Rémi. Ouais.
Et malheureusement, M. le Président, on aurait aimé arrêter la mobilité de certaines infirmières ou préposées d'un CHSLD à l'autre, mais on pensait que dans la balance des inconvénients, c'était mieux d'avoir des demi-employés dans chaque CHSLD que d'avoir des gens qui ne recevaient pas du tout de service. Donc, M. le Président, avec les ressources qu'on avait, on a fait notre possible.
Et là-dessus, c'est difficile de lui donner tort parce que on l'a découvert, il y a des aînés qui, malheureusement, et c'est tragique, n'étaient pas nourris. On leur donnait pas d'eau parce qu'il y avait plus personne.
Ça, c'est sûr.
Et donc là, on se met à sa place, effectivement, c'était mieux de ne pas faire en sorte qu'il y ait de la contamination par personne là, interposée, là, des gens qui se promènent d'un foyer à l'autre. Mais s'il n'y allait pas, il y avait carrément pas de service. Donc, c'est un dilemme où...
Cornélien.
Oui, difficile de sortir gagnant. Alors voilà pour les explications de François Legault.
La mise en échec inattendue, Rémi.
Oui, Gabriel Nadeau-Dubois qui pose des questions sur l'intervention possible du gouvernement pour la construction d'un stade de baseball et ou faire venir une équipe de baseball à Montréal.
Une demi-équipe.
Une demi, là, parce que c'est effectivement à temps partagé avec les Rays en Floride. Et François Legault, qui pourtant avait été, comme je le disais tantôt, relativement calme dans ses réponses aux libéraux, et a vraiment mis ses gants de boxe, là.
C'est sorti de nulle part, cette
affaire-là. Oui, et s'est mis à tapocher Gabriel Nadeau-Dubois, là, c'est vraiment le terme.
Est-ce qu'on l'écoute?
Oui, on va l'écouter.
On a devant nous un chef de parti qui dit qu'il veut devenir premier ministre. Hier, il écrivait sur son compte Twitter, je le cite, « En lisant les nouvelles ce matin, j'ai capoté. Mettre des millions dans une demi-équipe de baseball pendant que les aînés mangent de la bouette, c'est ça la vision de la CAQ. » Ce matin, le même chef de parti nous parle d'hot dog, all dress, ketchup. Puis il veut devenir premier ministre du Québec. Monsieur le Président, soyons très clairs. Contrairement à ce que dit le chef de Québec solidaire, il n'est pas question que notre gouvernement mette un sou des contribuables là-dedans.
Alors, François Legault était vraiment fâché de ce message sur Twitter de Gabriel Nadeau-Dubois. Il faisait référence à la mauvaise qualité des repas dans les CHSLD.
Oui.
Bon. Et c'est parce que François Legault dit c'est pas vrai, on va pas mettre des millions dans une demi-équipe de baseball. Parce qu'il dit il peut pas dire ça. Premièrement, il n'y a pas eu d'annonce, il n'y a rien de concret encore là, de confirmé. Bon, ça c'est une chose. Par contre, François Legault.
C'est encore très ambigu.
Oui.
Parce que dans le couloir, Pierre Fitzgibbon a dit. Ça ne coûtera rien aux contribuables, mais ça se peut qu'indirectement, on intervienne.
Oui, oui, c'est
moi, je ne sais plus où ils vont là-dedans.
Non, c'est ça, ce que j'allais dire.
Mais si je ferme la parenthèse.
François Legault a été coupable là, dans la confusion là-dedans, parce que vous avez bien entendu qu'il a dit pas un sou des contribuables, mais après ça, dans une autre phrase, pas ça qu'il a dit, c'est qu'il a dit ça coûtera pas un sou. Là, c'est voilà. Pas pareil. Là. Là, ça veut dire on revient à ce que François Legault et Pierre Fitzgibbon ont déjà dit, c'est-à-dire que pour eux, ça serait comme à coût nul. Il pourrait y avoir de l'aide du gouvernement, mais il y aurait plus d'avantages en impôts et taxes qui reviendraient. Bon. Alors là, ça, c'est pas pareil. Là. On parle d'autres choses. Donc, M. Legault, un petit peu confus là-dessus. Et sinon, mais pour revenir à son attaque, il a dit que GND, c'était indigne d'un chef de parti. Puis qu'il a dit aussi, j'ai jamais vu de la bouette comme ça.
Ben oui. Il fait précisément ce qu'il reproche à l'autre.
Ouais. Et comme s'il en revenait pas que GND ait utilisé des mots plus populistes, là, je dirais, pour se faire comprendre. Alors, on ne l'attendait pas. Et en même temps, tu sais, je dis ça, puis je trouve que ça revient aux affrontements qu'on a eus en début de session parlementaire.
Oui.
C'est comme si François Legault veut absolument, à la fin de la session, revenir là, au fait que la confrontation, c'est entre la CAQ et Québec solidaire. C'est l'adversaire.
Puis, Québec solidaire, c'est les sparages.
Ouais. Hein,
il a
les pelleteux de nuages.
Pelleteux de nuages. Il essaie de les définir.
Ouais. Puis, pop, tu sais, indigne. Alors, voilà.
La bonne nouvelle du jour.
Ben,
Rémi!
Hey, est-ce qu'on va au moins partir la session et avoir une entente sur les garderies? Ça serait
fallait voir le sourire de Sonia Lebel, tout à l'heure, la présidente du Conseil du Trésor.
Alors, entente de principe avec les syndiqués à la CSN, qui représentent la majeure partie là, des employés syndiqués des garderies. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de grève. Tu sais, comme jeudi, par exemple, la grève se poursuit, mais au mieux, il n'y aurait plus de grève à compter de lundi si l'entente passe auprès des membres et la négociation se poursuit avec les syndiqués à la CSQ. Donc, ça sent quand même les bonnes nouvelles pour qu'on puisse avoir un règlement et que ce soit derrière nous.
Et qu'on sourit lorsqu'on va faire du ski.
Et en passant, je félicite quand même Sonia Lebel de ne pas avoir attendu la conclusion de la négociation pour augmenter tout de suite les salaires des éducatrices en garderie, parce que ça au moins freiner l'hémorragie. Là. Les éducatrices étaient découragées et partaient quitter là, les CPE là, une après l'autre. Donc, je pense que ça a été ingénieux de le faire. Ils ont pas attendu et en même temps, ça enlevait un petit peu un levier de négociation, je trouve, du côté des syndicats.
Un pouce en l'air de Rémi.
Ben voilà.
Hein? Il est bon là-dedans.
Oui,
tous les samedis, mesdames et messieurs,
bravo,
dans le journal.
Madame Lebel.
À demain.
À demain.
Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Grand philosophe, poète dans l'âme. La politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
Vous écoutez Antoine Robitaille, là-haut sur la colline.
Une élection complémentaire se tiendra dans les prochains mois dans Marie-Victorin, une circonscription qui va nous donner donc un nouveau député après Catherine Fournier qui est devenue mairesse de Longueuil. Et un des candidats déclarés est avec nous, c'est Pierre Nantel.
Bonjour Antoine.
Bonjour, bonjour. Un de nos anciens collègues, anciens animateurs du matin ici à Cube. Évidemment, je tiens à le dire, on va inviter les autres candidats potentiels ou déclarés, en tout cas quand ça va être lancé, c'est certain qu'on va tous les inviter. Donc, vous êtes un adepte de Sainte Rita, alors, la patronne des causes désespérées?
Je pensais que vous aviez parlé du festival de Santa Teresa, Sainte Rita, j'étais mélangé. Ben voyons donc, pas du tout.
Non. Mais c'est plusieurs personnes pensent ça du Parti québécois, là, que ça va tellement
ben,
pas bien.
Ben justement, je pense que c'est comme une tendance de l'aborder toujours sur cet angle-là. Alors que moi, je peux dire que vraiment, là, pour moi, c'était vraiment un retour au bercail.
Ouais.
Je suis revenu dans le parti qui m'a vu grandir politiquement. Je me suis intéressé à la politique dès que j'étais plus jeune, en 76. Je me souviens, j'étais au Centre Paul Sauvé, puis j'ai demandé à un camionneur de tirer sur son klaxon. Puis c'était, c'est mon école politique. C'est le parti qui, je pense, a sculpté la vision sociétale du Québec de façon les plus déterminantes de tous les partis qui se sont présentés à l'Assemblée nationale. Le PQ a été certainement le plus marquant dans ses nombreuses politiques. Et dans Longueuil, Marie-Victorin, ben, on peut dire que, au contraire, l'appui au Parti québécois est très fort. Et j'incarne peut-être cette espèce de changement, mais pas le mot changement est mal choisi, j'incarne peut-être justement ce retour au bercail pour plein de gens qui, naturellement, soutenaient le Parti québécois.
Parce que vous avez été candidat, vous avez été candidat du Parti vert en 2019.
Oui.
Puis tout le monde se demandait pourquoi, parce que vous veniez de dire que vous étiez encore souverainiste.
Ben oui, absolument, ça a créé tout un tumulte qui s'est rendu en Colombie-Britannique.
Mais... J'ai retrouvé une phrase de Yves-François Blanchette, le chef du Bloc. Il avait dit « Je connais bien Pierre depuis des années, je suis obligé d'être mélangé, quoique peut-être un peu moins que lui. » Vous étiez pas mal mélangé à l'époque?
Ben, pas du tout. Je pense que si on le regarde ça sous l'angle des partis politiques, je peux comprendre que les gens se grattent la tête. Mais tout d'abord, il faut dire que pour les gens de Marie-Victorin, il y en avait très peu qui étaient surpris. Ils trouvaient ça tout à fait cohérent dans toutes mes communications que j'avais envoyées à tous les gens de la circonscription, autant de Longueuil et Pierre Boucher à l'époque que celle qui est devenue Longueuil-Saint-Hubert par la suite. J'ai toujours mis l'environnement au premier plan de mon action parlementaire. Évidemment, les enjeux locaux, c'est ça qui compte. Les gens nous choisissent pour ça. Mais rendu au Parlement, il y a des causes qui dépassent la circonscription même. Puis la question du réchauffement climatique, parce qu'on appelait ça du réchauffement climatique en 2011, quand j'ai été élu avec Jack Layton. Puis dans cette grande vague orange, on parlait de réchauffement climatique. Aujourd'hui, on parle de crise climatique. Puis c'est ce qui m'a fait chercher à être le plus efficace possible dans mon action politique lors de l'élection 2019. Je me suis dit, si on veut parler de climat, si on veut que cette élection-là soit un référendum sur le climat, cette élection fédérale de 2019, ben, fallait travailler avec Mère Nature, qui était Elisabeth May, et qui avait vraiment, depuis le début, soutenu plusieurs fois cette approche non partisane sur le climat que j'avais amenée à plusieurs reprises à la Chambre des communes.
À ce moment-là, Elisabeth May, justement, elle avait été obligée de faire une distinction entre souveraineté et séparatisme. Elle avait dit, c'est parce que vous aviez déclaré que vous étiez souverainiste. Elle avait dit, ah ben là, il y a beaucoup de Québécois qui sont souverainistes, mais ils sont pas séparatistes.
Ouais, je pense que...
Est-ce que vous croyez que c'est une distinction qui tient encore aujourd'hui? On dirait qu'il y en a plusieurs comme qui se disent... Tu sais, il y a des gens qui se disent catholiques, mais non pratiquants. Est-ce que les Québécois sont souverainistes, puis...
Je pense que Mme May est un peu perdue dans tout ça. Puis comme bien les progressistes canadiens-anglais, ils comprennent pas bien l'essentiel de ce qui anime les Québécois. Fait qu'aujourd'hui, je pense que les gens de Longueuil-Marie-Victorin, ils font comme, bon, ben c'est super, ils se concentrent sur des sujets qui nous touchent directement, parce que après avoir passé 8 ans à Ottawa, donc à être actif pour représenter les gens de Longueuil, évidemment, mais sur des enjeux très particulier comme la crise climatique. On se rappellera que j'avais essayé de rejoindre tous les députés pour faire un sommet des chefs pour convenir de nos réductions de gaz à effet de serre.
Okay.
Et finalement, ni les conservateurs ni les libéraux s'étaient montrés présents, alors que Jagmeet Singh, Mario Beaulieu, Elisabeth May et moi-même étions présents. On les invitait à venir s'asseoir à la même table parce que c'est un enjeu. Aujourd'hui, je pense que les gens réagiraient différemment. Alors, lorsque j'ai fait ces choix-là, les gens de Longueuil ont fait comme, bon, ben écoute, il est cohérent avec son engagement. Bon, est-ce que c'était poussé trop loin, puis il y avait un engouement tel pour le Bloc, c'était super. Aujourd'hui, je maintiens les mêmes engagements.
Regrettez-vous, n'auriez-vous pas dû vous présenter pour le Bloc, alors, à ce moment-là, en 2019?
Ce qui est certain, en tout cas, c'est que ça ne me permettrait pas d'être disponible aujourd'hui pour défendre la prochaine urgence qui, d'après moi, doit se gérer au Québec.
Oui.
Qui est le plus d'autonomie possible, l'indépendance du Québec, ne serait-ce qu'un sujet qui me touche depuis toujours.
C'est quand même un parcours très sinueux que vous avez.
Mais moi, je trouve pas. Parce que faut se rappeler à quel point le NPD, à l'époque, m'avait donné beaucoup de temps de glace pour talonner Mélanie Joly, talonner Pablo Rodriguez. Vraiment, s'il y a une personne, à part le Bloc, qui a parlé constamment de cet enjeu-là, puis même Xavier Barcelos-Duval m'a salué de façon très élégante lors d'un débat électoral où on s'opposait en 2019, disant à quel point j'avais défendu cet enjeu-là. Je pense qu'aujourd'hui, force est de constater qu'à Ottawa, ça n'arrivera pas la protection de nos industries culturelles. Le contenu québécois disparaît des écrans que surtout la jeune génération fréquente. Bien sûr, si on écoute la télévision, ces grandes entreprises-là médiatiques sont contraintes par des licences sur TSC d'avoir du contenu québécois.
Donc, vous avez commis un chemin de Damas. Vous avez pris conscience là, en essayant. Je pense un peu comme Lucien Bouchard qui était devenu ministre de Mulroney, puis finalement...
C'est parce qu'à un moment donné... Y a
comparez-vous votre parcours un peu sinueux à d'autres souverainistes qui ont eu ce type de...
J'avoue que la comparaison me fait plaisir quand même.
Et flatteuse, ah bon?
Ben oui, parce que je pense que Lucien Bouchard, j'ai eu la chance de m'entretenir avec lui seul à seul pendant presque 2 heures et demie. Il était très généreux. Puis je pense que c'est un constat quand tu arrives à la conclusion, et c'est même pas moi qui l'ai fait alors que j'étais au Parlement. Quand c'est au printemps, alors que M. Trudeau est arrivé avec cette élection, que tout le monde constate qu'elle était bien inutile, c'est bien dommage parce qu'entre autres, cette élection-là a fait disparaître au feuilleton le projet de loi C-10 que, rappelons-le, 10 députés conservateurs du Québec n'ont pas soutenu. Et aujourd'hui, on se retrouve avec aucune protection. Puis combien d'années Ottawa va-t-elle prendre pour enfin légiférer sur ces enjeux-là?
Moi, j'ai une chronique constitutionnelle à cette émission. Il y a Patrick Taillon qui dit toujours que pourquoi le Québec, qui s'est déjà entendu sur une motion à l'Assemblée nationale pour rapatrier les pouvoirs en matière de culture, même Jean Charest a parlé de ça. Pourquoi on espère tant de C10? Pourquoi les politiciens québécois ne mettent pas en avant une nouvelle politique culturelle adaptée au numérique, alors que la politique culturelle ancienne, puis les décisions, puis la jurisprudence des tribunaux, c'est l'ère de l'analogique, là. Et donc, on pourrait, et Patrick Taillon, il le dit souvent, on pourrait avoir une politique québécoise en matière de culture, même de communication. Seriez-vous d'accord avec ça?
Si les gens pouvaient voir mon sourire, Antoine, c'est précisément pour ça que je m'en viens à Québec.
Ah oui?
C'est parce qu'ultimement, on voit bien que la Fédération canadienne ne peut pas rencontrer les besoins de protection, les besoins de valorisation. Aujourd'hui, quand on pense à nos réalisateurs québécois qui sont partout, quand on pense à Denis Villeneuve qui réalise, qui va même réaliser le deuxième, comment est-il arrivé à un tel cheminement professionnel? C'est entre autres parce que dans nos médias, on a installé un cadre réglementaire qui faisait que pour avoir une antenne de diffusion, il fallait avoir du contenu d'ici et le payer. Et Denis Villeneuve, entre autres, réalisait beaucoup de films, de courts-métrages, de vidéoclips. On se rappellera qu'à l'époque, Musique Plus était l'antenne francophone de Mosh Music. Et ils avaient des quotas francophones à respecter. Denis Villeneuve a réalisé plusieurs vidéoclips, dont ceux de Daniel Bélanger.
Mais les jeunes, dites-vous, je vous ai entendu tantôt le dire, ils sont sur des écrans où il n'y a plus de culture québécoise.
Exact.
Et c'est ça qui fait fait prendre conscience d'une identité. Alors, ils n'ont pas souvent ce sentiment d'être québécois, même, les jeunes.
C'est pour ça que je suis ici. C'est un enjeu majeur.
Mais est-ce que vous n'avez pas perdu toute une génération déjà qui ne votera jamais pour vous? C'est ça que je veux dire.
Bien, c'est vrai en tout cas qu'au niveau culturel, l'ancrage culturel, effectivement, c'est dramatique à dire, mais je pense que c'est le temps de se mettre les deux yeux devant les trous. Je veux dire, la génération Passe-Partout, on la connaît aujourd'hui, ce sont nos millénarios qui sont si sûrs d'eux-mêmes, prêts à conquérir le monde, mais profondément ancrés au Québec. Mais la génération suivante a-t-elle eu cet attachement-là à la culture d'ici quand, effectivement, ils consultent essentiellement le streaming, donc les plateformes internationales où le contenu n'est pas protégé. Alors oui, c'est grandement temps d'arriver à l'ère. Aujourd'hui, on est un peu comme l'image, quand vous parlez de génération puis du temps qui a passé, bien effectivement, c'est comme si nous, on arrivait devant un jukebox puis on avait une cassette 8 pistes, elle ne rentre pas dans la machine. Il faut qu'on soit dans l'outil de distribution que tout le monde utilise. C'est majeur, entre autres, quand on pense au recul du français. C'est-à-dire, quand on dit que les jeunes ne voient pas l'urgence de se battre là-dessus, bien, premièrement, heureusement, on a des jeunes péquistes comme Marie-Laurence Desgagnés qui prend ça à cœur, parce qu'il faut ramener le sujet à la surface. Mais effectivement, on peut en parler pendant 50 ans, mais si tout le monde retourne chez lui et allume Netflix ou Amazon Prime ou Disney et qu'il n'y a à peu près pas de contenu québécois, bien, ça devient un peu comme du folklore. Et c'est ce qui a déterminé le Québec profondément, la télévision, depuis René Lévesque avec Point de mire, jusqu'à Marie-Claude Barrette aujourd'hui, à TVA. Je pense à des émissions comme M'entends-tu, qui est l'exception d'ailleurs, qui confirme la règle sur Netflix. Quand les gens tombent sur ça, comme « Ah oui, ah, ça c'est bon, cette série-là, c'est tellement contemporain. » Alors voilà, il en faut beaucoup plus que ça, parce que l'auditoire est maintenant rendu là.
Qu'est-ce que peut faire le Québec de plus pour les changements, pour lutter contre les changements climatiques? Taxer les SUV, c'est une bonne idée?
Ben,
c'est-à-dire un bonus-malus?
Oui, ben, les Français avaient appliqué ça. Effectivement, ici, il faut...
Il y a Sylvain Gaudreau là, qui le dit dans votre partie.
Bien sûr, puis il parle de transition juste aussi. Les défis climatiques que le Québec a devant lui, on est chanceux parce qu'on part quand même avec une longueur d'avance avec l'hydroélectricité.
Mais si un agriculteur ou un entrepreneur en construction vous dit « Moi, je n'ai besoin de mon pick-up. »
Ben, c'est clair. C'est bien clair qu'il va falloir aménager des exceptions. Tu ne peux pas demander à quelqu'un qui roule dans un chemin de garde-notes en Haute-Val d'Or de se retrouver avec une petite auto électrique qui a une autonomie de 200 km.
Vous roulez dans quel type de voiture?
Ah, oh, mon Dieu!
N'avez-vous
une? Oui, ben, j'ai une Imiev 2014 avec une autonomie de 140 km quand je suis très, très, très sage et qu'elle est bien chargée puis qu'il fait chaud puis que j'ai pas besoin de mettre le chauffage.
Mais qu'est-ce qu'on peut faire de plus donc pour lutter contre les changements climatiques? Là, le gouvernement actuel insiste beaucoup sur l'électrification.
Je pense que là-dessus, ils ont bien raison. Évidemment, toutes les questions d'équilibre au niveau, entre autres, des gisements miniers qui ont son rapport à cette fabrication-là, mais il y a de belles ententes qui ont été faites, entre autres, avec les fabricants d'automobiles américains qui sont installés dans le sud de l'Ontario. Est-ce qu'on peut les abreuver en batterie, entre autres, pour ces nouveaux véhicules électriques qui s'en viendront? Est-ce que l'entente du libre-échange et du « Buy American and Unionized » de M. Biden... Il faut négocier tout ça. C'est
donc,
complexe.
Le gouvernement fait un bon boulot là-dessus.
Sur l'électrification du transport, je pense qu'il faut continuer l'effort qui est fait actuellement. C'est beau de faire le plein au Québec. Encore faut-il que ce soit accessible puis réaliste. Donc, plus, évidemment, il faut avoir un réseau de bornes plus efficace puis faire baisser les prix autant que possible. Il y a plein d'autres enjeux. C'est sûr qu'au niveau des transports, on peut aussi beaucoup augmenter l'offre de transport en commun partout où c'est possible. Mais il y a des endroits où ça ne l'est pas. Puis il faut donc avoir une approche assez modulable parce qu'effectivement,
même si la demande en transport en commun a vraiment chuté avec la pandémie. Hein?
Espérons que c'est une situation temporaire, évidemment.
Quand je prends l'autobus, il n'y a jamais plus que trois personnes dedans.
C'est vrai que c'est dramatique.
Est-ce
qu'il
faut réévaluer nos projets de transport à la lumière de cette chute-là?
Je dois dire que c'est une question assez interpellante parce que la question de la COVID est une question qui, éminemment, on le souhaite temporaire. Beaucoup de gens, on convient aujourd'hui qu'il va falloir apprendre à vivre avec tout ça. Bon, si on apprend à vivre avec tout ça, on va être capable de reprendre l'autobus en se lavant les mains puis en mettant un masque.
Est-ce qu'il fallait tuer les chevreuils du parc Michel Chartrand?
Ça, c'est un sujet. Voyez-vous, je suis à Québec, là, puis je suis pas.
Ouais, mais c'est votre comté, non?
Oui, c'est vrai. Ben écoutez, je pense que en fait, sur plusieurs problèmes devant moi, moi, ce que je souhaite, c'est être utile dans la société. Puis je pense qu'il faut évidemment réagir à la situation telle qu'elle se présente maintenant. Puis il faut aussi se dire comment régler la prochaine situation pour qu'elle ne se présente pas de la même manière. Alors, stériliser les chevreuils, ça aurait été quelque chose qu'il aurait fallu faire il y a belle lurette.
Okay.
Aujourd'hui, je pense qu'il faut mettre en contexte la chasse aux chevreuils. On parle de, disons, 75 bêtes du côté de Longueuil. Ça fait bien la peine. Je vais marcher souvent au parc Michel Chartrand. Je me retiens de nourrir les chevreuils parce que c'est évidemment très
tentant. C'est des belles bêtes.
Mais on peut aussi donner des pinottes à certains écureuils. Mais dans tous les cas, nourrir les animaux, c'est pas une bonne idée, même si c'est très tentant. Mais ceci dit, on s'y attache.
Puis, mais fallait-il la décision là, que la... Que votre,
je pense que c'est la chose la plus raisonnable à oui. faire. Faut remettre en contexte, évidemment, que même si on aime beaucoup, Mme Goldwater dit on aime beaucoup Bambi, d'accord, mais il y a 50 000 Bambi, si je ne me trompe pas, par année, qui sont abattus par les gens qui font de la chasse sportive. Mm-hmm. Alors, faut mettre les choses en contexte.
Êtes-vous un chasseur, vous, Pierre Nantel?
Non, je suis pas chasseur, non? J'ai pas de pick-up F-150 okay. pour y aller.
Hey, commentez la politique, ça vous suffisait pas?
Bien, c'est une belle question. C'est vraiment très, très... C'est un métier agréable.
Parce qu'on peut avoir beaucoup de pouvoir comme commentateur.
On a beaucoup d'échanges avec les gens, c'est le fun.
À la joute.
Mais honnêtement, moi, je carbure beaucoup à l'urgence. Puis l'urgence climatique, bien là, je souhaite bonne chance à Stephen Guilbeault pour qu'il fasse entendre raison à l'Alberta. Puis pour ce qui est de l'urgence, de la résilience du Québec, quand on voit le recul du français, quand on voit les perles de télévision, de cinéma, puis de musique qu'on fait au Québec, puis la réalité que... Le jeune auditoire est de moins en moins là. Il faut absolument... Ça, pour moi, c'est une urgence. Est-ce que... Parce que
vous étiez tanné d'être gérant d'estrade?
Bien, c'est parce que, concrètement, il faut faire des gestes. Et clairement, ici, M. Legault et son gouvernement, là-dessus, font absolument rien. Est-ce qu'il a fallu qu'il se fasse prier pour intervenir sur C10 puis demander quelque chose? Est-ce qu'aujourd'hui, Mme Roy est au téléphone avec M. Rodriguez pour lui dire que c'est urgent une réglementation de cet ordre-là, en attendant que le Québec soit indépendant et paye son propre CRTC, est-ce qu'elle le
fait? Il
n'est
même pas obligé d'attendre l'indépendance.
Comment c'est constitutionnel, ultimement, c'est une demande qui peut très bien être formulée. On a tous les arguments pour en démontrer la véracité. Mm-hmm. Mais en ce moment, pour le moment, là, ben, on a laissé des gens abandonner la culture.
On parle beaucoup des grandes questions, mais on a parlé des chevreuils. Mais votre priorité pour votre comté, quelle est-elle en terminant?
Sans aucun doute, le soutien aux organismes communautaires. On parle donc ici de francisation, d'accueil, d'aide alimentaire, qui sont au centre parce que Longueuil et Marie-Victorin est caractérisée par son riche tissu d'organismes communautaires et qui accueille une grande proportion de nouveaux arrivants. Donc, les enjeux de francisation sont majeurs et majeurs dans le beau sens du terme parce qu'on a les ressources, on a les ressources pour le logement communautaire aussi. Il faut juste avoir le soutien financier, en faire une priorité, parce que des nouveaux arrivants, on en veut tout plein, à la mesure qu'on est de bien les accueillir, de les franciser, et qu'ils soient bien conscients qu'ils embarquent dans un grand projet francophone en Amérique du Nord.
Merci beaucoup, Pierre Nantel, candidat déclaré, en tout cas à l'investiture du Parti québécois, pour Marie-Victorin. À bientôt.
Au revoir.
Et c'est ainsi que se termine Là-haut sur la colline en ce mercredi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Et je vous dis à demain.
Cube Radio.